Vous avez là, excusez-moi, on vous a mis l'adresse du lien où le rapport dans son intégralité est lisible et imprimable.
Bien, donc avant de passer aux questions, je voudrais juste dire que effectivement le rapport sera posé sur le site en accès libre, qu'en ce moment donc il y aura des enregistrements audio qui sont faits et vidéos qui seront également positionnés sur le site, je pense dans la journée de demain. Voilà, donc la parole est à qui la demande, sachant qu'il y a. C'est un peu compliqué parce que vous avez des micros tous les deux rangées là qui sont des micros filaires. Je peux pas passer.
Oui, allez-y, mais il faut attraper un micro.
Christian Federici, je travaille plus près, excusez-moi. Je travaille dans les sciences de la vie, je suis ITA. J'ai pu apprécier la présentation de ce qui concerne la précarité qui touche tous les secteurs des organismes de recherche. Cela dit, je pense qu'il faut quand même souligner un point, c'est les conséquences de la précarité sur le travail des titulaires. On accuse beaucoup les titulaires de ne pas être solidaires de leurs collègues non titulaires, mais je pense qu'il faut aussi voir les conséquences de la précarité sur le travail des titulaires. Il y a une précarisation du travail des titulaires. Je parle, par exemple, dans le secteur des sciences de la vie. De plus en plus, les titulaires doivent quitter les équipes et rejoindre ce qu'on appelle les plateformes. Or, c'est un secteur que beaucoup de titulaires ont voulu rejoindre. Pourquoi ? Parce qu'ils pensaient avoir plus de promotion dans les plateformes que dans les équipes. Cela dit, maintenant, à quoi on aboutit ? On aboutit à des équipes où il y a très peu de titulaires. Les titulaires qui restent sont obligés de participer à ce qu'on appelle les tâches transversales, qui absorbent environ 20% de leur temps, et qui donc, on ne peut pas dire que ça les autorise à participer à un travail de recherche conséquent. Alors, je voudrais être bref et laisser la parole après à d'autres personnes. Juste souligner un point, c'est le développement excessif des plateformes dans les organismes de recherche. Ces plateformes sont surchargées en crédit, en matériel et en personnel. Je pense qu'il serait bon de rééquilibrer le personnel de recherche dans les organismes de recherche, du moins dans les sciences de la vie. Voilà, je laisse la parole.
Merci. Donc, il y a peut-être des questions aux membres du groupe de travail. Les interventions, après, il est prévu un moment dans lequel un certain nombre de collègues en situation de précarité interviendront. Hein, donc, sachant que ça se passera d'ici un petit quart d'heure.
Situation de précarité. Je voudrais témoigner. Chantal Forestal, je voudrais simplement signaler qu'il y a 35 ans, il y a eu une grève de la faim à Jussieu pour l'intégration des non titulaires de l'enseignement supérieur, puisque à cette époque-là, il y avait déjà à Lissonnier qui licenciait 2500 personnes. Ensuite, il y a eu une seconde grève de la faim pour éviter que le décret d'application ait lieu. Et à cette époque-là, il n'y avait pas, disons-le, les syndicats. Alors aujourd'hui, je voudrais dire qu'à la suite de ces deux grèves de la faim, il y a eu une mobilisation un petit peu partout pour les non-titulaires. L'arrivée de la gauche a fait qu'il y a eu un plan d'intégration des non-titulaires de l'enseignement supérieur. Donc ça a été très positif, mobilisation de l'ensemble des syndicats. Et je voudrais dire qu'aujourd'hui, je suis très contente de voir qu'il y a une prise en considération par un travail de recherche des non-titulaires de l'enseignement supérieur et que la majorité des syndicats sont représentés. D'autre part, je voudrais témoigner pour les langues, parce que moi j'ai fait partie des vacataires historiques qui avaient du 24 heures hebdo toutes les semaines, tous les mois de l'année, en juillet et en août compris. Donc, quand nous avons été intégrés, certains d'entre nous, eh bien, nous avons apprécié de passer de 24 heures à 5 heures de cours hebdomadaire. Hein. J'ai fait ma thèse, maintenant je suis qualifiée aux fonctions de professeur des universités, j'ai pris ma retraite, tout se passe bien. Mais alors, j'ai des collègues qui se retrouvent avec, à l'heure actuelle, licenciés au bout de 8-9 ans à l'université parce qu'il y a obligation de les intégrer après 6 années de service complet. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Que fait l'université ? Elle les externalise avec des sociétés bidons hein, pour leur permettre d'assurer les langues. Et je veux dire, moi, en français et langue étrangère, qu'il n'y a même pas de CAPES français langue étrangère. Donc, c'est vraiment des situations personnelles dramatiques et qui sont généralisées, en particulier pour l'enseignement du français en tant que langue étrangère. Je tiens à témoigner là-dessus. On n'a pas évolué par rapport à l'époque où Escarpite dans le Monde faisait toute une tribune sur la défense de la langue française et que paradoxalement, nous étions déjà tous payés à l'heure de la femme de ménage. Voilà, je m'arrête là pour laisser la parole aux autres.
Bien, la parole est là. Juste, si un intervenant souhaite ne pas voir son image publiée sur le site, qu'il vienne me le dire ou qu'il prévienne les caméramans. Mais pour l'instant, tous ceux qui interviennent peuvent voir leur témoignage, leur intervention passer sur ce.
Benoît Mogi, je suis membre de la Confédération des jeunes chercheurs. Moi, j'avais une question à propos de ce qui concernait les doctorants de votre enquête. Je voulais savoir ce que vous aviez considéré comme étant une rémunération. Parce qu'il y a un des chiffres qui ressortait, qui était que en SHS, il y avait 9% qui se déclaraient comme étant sans rémunération. Et en fait, j'ai été surpris parce que je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus. Et je pense qu'en fait, peut-être vous l'avez distingué dans votre enquête complète, mais ce qu'il faut distinguer, c'est vraiment ce qui concerne la rémunération de l'activité de recherche. Parce que quand on considère les chiffres globaux, il y a entre quelque chose comme 70 000 doctorants. Quand on additionne tous les financements venant du ministère de la région Île-de-France, des régions en général, de tout, on aboutit à peine à 20 000. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a au moins les deux tiers qui sont non financés pour leur activité de recherche.
Tu réponds, Mathieu ? Tu veux répondre ?
Oui.
Ça.
On n'a pas... Dans le questionnaire, vous pouvez le trouver en annexe du document, hein, on n'a pas demandé de préciser l'origine des fonds. C'est-à-dire que, d'une part, les intéressés répondent sur leur lien avec l'ensemble de l'enseignement supérieur et de la recherche, et à un autre moment, ils répondent sur la définition, sur leurs ressources. Hein. Donc effectivement, on ne peut pas savoir si quelqu'un déclare qu'il occupe à la fois des tâches administratives ou des tâches d'un technicien et qu'il fait une thèse. Sa rémunération, elle vient de ses tâches administratives ou de ses tâches de technicien et il fait une thèse. Voilà. Et il n'a pas une rémunération liée à son activité de doctorant.
Est-ce que je peux juste ajouter quelque chose ? Il y a aussi quelque chose dont on s'est rendu compte quand on avait administré le questionnaire, la première version du questionnaire localement, c'est que beaucoup de doctorants ne se reconnaissaient pas comme des travailleurs précaires de l'enseignement supérieur et la recherche publique. Et qu'il y a de fortes chances, on est dans l'hypothèse là, hein, vu qu'on n'a pas on a la population des doctorants, mais je veux dire la population des précaires, on l'a pas, sur le fait qu'il y ait une inhibition forte, notamment pour les doctorants non financés, à répondre au questionnaire. Qui est une espèce de paradoxe, et pas complètement quand même. Et ça, on s'en était rendu compte dans la passation locale, que dans les couloirs, il fallait dire non, mais tu es doctorant, tu es précaire, ou tu ne l'es pas. Les gens s'auto... Comme on est sur de l'autodéfinition, il y a eu quelque chose qui s'est joué par là. Et probablement que les moins rémunérés et finalement les plus précaires sont ceux qui ont en proportion le moins répondu par rapport aux autres. Et je pense que ça explique une partie de certaines bizarreries. Enfin, bizarreries. Je pense que ça tient beaucoup à ça aussi.
Vous voyez les questions là ?
Une question très courte concernant la question sur l'appréciation de la situation et la valeur de 3. Quand on pose cette question en dehors de cette catégorie, si on imaginait poser cette question ou lorsqu'elle est posée en dehors, c'est est-ce qu'on est à 3 ou est-ce qu'on est en général en moyenne à 6 ou est-ce qu'on est à 1 ? Parce que ce chiffre en soi ne signifie rien. Donc est-ce que vous pouvez me donner une information là-dessus ?
Merci. Juste peut-être un petit point. On parle de la confiance. Là, la confiance, ce n'est pas la confiance en l'avenir tout court. C'est la confiance en l'avenir professionnel. Est-ce que je vais avoir un poste ? Est-ce que... Donc ça ne sert à rien de comparer avec une autre population qui elle-même a déjà un poste. Alors, ça pourrait être intéressant de le comparer avec des lycéens, par exemple, qui n'ont pas encore leur bac et qui se projettent dans un avenir. Et là, en général, C'est difficile aussi de répondre en général parce que ça dépend beaucoup du type de bac, du type. Donc, mais on est plutôt vers la confiance, c'est-à-dire après 5, entre 5 et 10, selon les types de bac, selon les types de milieux, selon un certain nombre de choses comme ça. Notre comparaison est tout de même difficile. On parle d'une population particulière. Tu veux rajouter ?
Oui, mais je ne vais pas rajouter un truc à chaque fois.
Si tu peux.
Non, mais c'est juste parce que je pense qu'en effet, les chiffres sur l'échelle de confiance en eux-mêmes ne disent, enfin voilà, c'est pas, on n'est pas dans les maths là, on est dans. Mais par contre, le fait qu'il soit que la une forte proportion des répondants, une majorité des répondants, soit dans l'échelle basse, c'est ça qui est significatif en fait. Enfin, ça devient significatif du fait des réponses des gens en soi. C'est une proposition, on savait pas ce que ça allait donner, mais de voir qu'une majorité de gens disent, je veux continuer dans l'enseignement supérieur et la recherche public et que et en même temps mais j'y crois pas du tout, je n'aurai pas de boulot en fait, puisque là quand même c'est ça hein, qui se passe dans les dans cette échelle là ça dit quelque chose. Mais en effet on n'est pas sur un truc hyper dur et c'est subjectif, ça fait partie, c'est comme un commentaire libre en fait, cette question là c'est une réponse subjective en fait qui dit quelque chose par la masse, par la masse des réponses, je pense.
Oui, moi je vous remercie beaucoup pour cette enquête qui donne des chiffres sur des choses que quand on est du milieu, on connaissait, mais on ne savait pas chiffrer, justement. Et puis pour d'autres, je pense que ça apprend des choses. Moi, il y a un point très précis qui m'intéresse, c'est le problème du travail illégal dans la fonction publique, qui est quand même, je trouve, un scandale en soi déjà. Et je m'interroge sur le fait qu'il va pouvoir s'aggraver et en même temps peut-être malheureusement être légalisé. Je pense à un point extrêmement précis qui est que jusqu'à présent, l'enseignement supérieur à la recherche, l'employeur était l'État et le ministère. Autrement dit, ça veut dire qu'on tombait sur le coup que si on était employé 6 mois dans une fac, 6 mois dans une autre, c'était toujours le même employeur, avec tout ce que ça veut dire au niveau de titularisation. Avec la LRU, nous rentrons maintenant dans le fait que nous ne sommes plus employés par l'État, mais employés par une université tout à fait autonome. Alors, est-ce que l'illégal, est-ce que d'abord vous avez des chiffres de l'illégalité du fait d'avoir plusieurs contrats dans des facs différentes qui, du coup, normalement, c'est le même employeur, avec, on se souvient des histoires McDonald's, par exemple. Est-ce que vous avez des chiffres sur ces illégalités-là? Et d'autre part, est-ce que donc le passage à l'autonomie des universités va faire que cette illégalité va disparaître de manière en fait tout à fait factice?
Juste un point de réponse, mais là encore, vous allez voir que nos réponses sont floues et peuvent être contradictoires selon les sous-groupes. En fait, non, on n'a pas ce genre de réponse. On n'a pas de chiffres. On a des réponses dans les commentaires. Je vous rappelle que là, on a présenté des chiffres, mais qu'à chaque fois, on a des commentaires et la possibilité de donner des réponses libres. Et donc, on a des explications. Quand on vous dit en moyenne 3 contrats ou 3 employeurs, certes, ça, c'est une moyenne, mais d'un autre côté, on a certains collègues ou répondants qui nous donnent beaucoup de ces expériences. Ça touche pas forcément à l'illégalité, ça. Travailler à plusieurs endroits...
C'est une succession dans la durée qui fait qu'on tombe dans le fait qu'on doit être titularisé au bout d'un certain nombre de mois quand on est employé par l'employeur.
Je ne sais pas si ça marche pour les vacataires de toutes les façons ou chargés de cours au sens où je l'employais, mais pour les contrats, évidemment, ça, c'est très important. On n'a pas de données plus...
Non, on a des récits sur les gens qui... On en a plusieurs, particulièrement dans les fonctions administratives, les gens qui racontent que pendant 6 ans, ils ont des contrats, donc bon, ils ne doivent pas être si mauvais que ça, puisqu'on les reprend à chaque fois avec des interruptions, avec des salaires bas, etc., mais on les reprend. Et puis, une fois qu'arrive la date de péremption devrait amener à la pérennisation. Bah si, mais parce que c'est non, mais ça fait partie des mots. Moi, je suis un peu habitée par les mots des gens, mais ça fait partie des mots qui sont utilisés, c'est-à-dire au bout des 6 ans, quand il faudrait que le poste soit pérennisé, on est jeté. Et ça, il y a des récits, mais c'est plus de l'ordre du récit dans les commentaires que dans la visibilisation dans les résultats quantitatifs.
Merci. Et encore peut-être une ou deux interventions. Après, on abordera quelques témoignages de précaires.
Il y en a
deux au
fond. Il y en a deux au fond dans le noir.
Et puis Henri.
Oui, essayez de...
Il a.
Oui, c'est pas si ça marche. Oui. Là, ça va ?
Oui.
On sait qu'il y aura de moins en moins de postes statutaires. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le programme de recherche, notamment les ANR, il y a de plus en plus d'argent. Ce que je ne comprends pas, pourquoi ne pas faire de contrat de travail en fonction de la durée du programme. Merci.
Quand on travaille.
C'est de ton travail, c'est ça qui est.
Non, pourquoi il y a des contrats tous les ans alors que
bah, tu fais la recherche.
On ne va pas répondre tout de suite, hein. Il y aura des réponses après, ou qui seront des tentatives de réponse dans la deuxième partie après la table ronde.
Bon, moi par rapport à la méthodologie de l'enquête, j'ai deux problèmes.
Non, on a répondu qu'on ne répondrait pas maintenant, qu'on cherchera.
On a dit qu'il ne répondrait pas maintenant.
On ne sait pas répondre de toute façon.
Bon, j'ai deux problèmes. D'abord, au niveau des doctorants. Je crois que c'est une erreur de ne pas avoir distingué les doctorants financés par quelque chose type allocation de recherche et les autres. Pourquoi ? Parce que, en faisant cela, on masque un phénomène essentiel qui est l'allongement ou le fait que des thèses durent 4, 5, 6, 7 ans. Et c'est particulièrement vrai en SHS. Le commentaire sur les doctorants n'a pas souligné ce problème-là. En SHS, encore que, y compris en SHS, la durée moyenne de la thèse évolue considérablement d'une discipline à l'autre. Alors comment on doit quand même avoir des revendications globales, mais aussi cibler un certain nombre de revendications, je voudrais souligner aussi le fait que de ne pas avoir distinguer étranger et pas étranger pose problème dans la définition des revendications, et je vais donner deux exemples contradictoires. Les doctorants, vous avez 15% pratiquement des doctorants qui ont des allocations qui sont étrangers. Les étrangers représentent 30% des thèses passées. Les situations des doctorants, notamment venus de pays, notamment venus d'Afrique, disons-le directement, est absolument catastrophique. Et ce qu'ils ont pour vivre est absolument lamentable. Donc là, il y a quand même un ciblage à faire. Inversement, quand on prend ce que j'appelle les CDD officiels, c'est-à-dire l'ANR, etc., gérés par un établissement, on constate que 55% dans les EPST de ces gens sont étrangers. Mais c'est des étrangers qui vont rester et qui veulent retourner dans leur pays. Donc, moi personnellement, je suis pour demander la transformation des crédits de l'ANR en poste budgétaire, mais je crois que dans la formulation qu'on va avoir là-dessus, c'est pas neutre de savoir si les gens veulent rester ou veulent retourner dans leur pays. Dernier point, je crois qu'on va avoir des revendications. Il va falloir, on a deux types de revendications unifiantes. D'une part l'emploi et d'autre part des revendications structurelles. C'est-à-dire, il va sans dire l'ANR, les développements de trucs à courte durée, mais aussi structurels au sens où la longueur de la thèse. Et en même temps, je crois que les divers types de précarité qu'on a définis un peu ici ne relèvent pas toutes des mêmes mécanismes concrets dans les revendications. L'exemple que j'ai donné, transformer les crédits des organismes dispensateurs comme l'ANR en emplois budgétaires s'applique pas nécessairement aux administratifs dans les universités. Donc il va falloir qu'on définisse. Hein ? Je ne dis pas la recette, je dis un principe. C'est tout.
Attends, je voudrais répondre sur deux points là.
Moi je veux bien répondre aussi.
Ouais. Ça va pas, j'ai... Bon, merci. Et il y en a qui se connaissent trop bien ici. Attendez, moi je voudrais reprendre deux points s'il vous plaît. D'abord sur le problème de l'illégalité. Ça c'est un problème tout à fait important que je ne veux pas du tout minorer. Il me paraît tout à fait évident que nous avons des objectifs d'affiner, d'approfondir, d'améliorer notre connaissance de la situation, de la diversité des situations des précaires. On ne va pas demander au ministère de faire une enquête sur les illégaux. Hein, ça, c'est voué à l'échec. Hein. Et de la même manière, ce n'est pas avec une enquête de ce style-là qu'on va pouvoir aller comprendre et encore moins mesurer ce type de situation. Il est évident que si on veut aller plus loin, si on veut mieux savoir les choses, il faut qu'on passe à une étape qui est mieux ciblée, qui est beaucoup plus qualitative, qui va beaucoup plus loin avec des petits groupes de gens qui forcément seront volontaires. On en a la possibilité. Les gens qui répondaient, un certain nombre d'entre eux, un nombre assez significatif, plusieurs centaines, a par ailleurs communiqué son mail en disant « on a envie d'en savoir plus et éventuellement on a envie d'être mobilisé pour approfondir ». Donc ça, pour nous, c'est une direction de travail possible et c'est une direction très riche. Maintenant, je voudrais reprendre aussi le problème des étrangers. Où il y a un certain nombre de questions comme ça. On s'est dit qu'on pouvait pas se les poser. Alors, on avait des raisons. D'abord, on s'est dit, ce questionnaire doit être anonyme. On sait très bien que beaucoup de gens, s'ils ont l'impression qu'ils vont être un peu repérés ou repérables, et particulièrement si on les amène à dire des choses comme « je travaille avec un prête-nom », ils vont plus répondre. Hein ? Il y avait déjà 8 pages de questionnaire, c'est trop facile d'arrêter au milieu. Donc, on a fait très attention de ne pas poser, par exemple, des questions sur le lieu géographique de travail, alors que ça aurait été intéressant d'en savoir un peu plus sur Paris-Province et tout ça. On a fait la même chose sur la nationalité. On le regrette aussi, bien sûr. Mais là, je pense que toutes ces choses-là, on pourra aller plus loin en refaisant des enquêtes beaucoup plus ciblées avec des gens plus volontaires. On en a les outils. Aujourd'hui, on a 4500 réponses, c'est déjà extraordinaire. Il y a toute une série de choses d'analyse secondaire qu'on peut faire, déjà, qu'on n'a pas eu le temps de faire. Hein, parce que le questionnaire, on l'a arrêté début janvier. Vous voyez, on est là. Je vais vous dire qu'on n'a pas perdu de temps. Hein.
Bien, merci.
Oui, attends, Daniel. Moi, je voulais répondre juste sur deux choses. D'une part, je n'ai pas très, très bien compris la question à laquelle on a dit qu'on allait répondre plus tard. Je crois que c'est collectivement, on ne l'a pas très, très bien comprise. Ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, les durées des contrats ne recouvrent pas forcément les durées des projets. Et ça, c'est une politique. Alors, l'autre chose, c'est sur la question des étrangers. Alors, Henri a posé la question des étrangers. On peut poser la question beaucoup plus généralement. Les étrangers, je peux comprendre que ça concerne beaucoup les doctorants. En tant qu'ingénieur, moi, je serais plus sensible aux problèmes de discrimination liés aux origines, à l'origine étrangère ou à l'origine, certains disent ethnique, d'autres, etc. Il y a une discrimination qui peut faire qu'un certain nombre de personnes, de par leurs origines, enchaînent des contrats précaires et ont des difficultés à être titularisées. Donc cette discrimination-là, elle est difficile à observer, elle est difficile à saisir dans une enquête. Et j'avoue qu'on avait cette population-là déjà, celle des précaires, qui était difficile à saisir. On n'a pas prétendu couvrir toutes les questions à travers ce seul questionnaire. Et je crois que c'est important qu'on investisse effectivement sur la question des étrangers, mais sur la question aussi de l'origine. Il faut savoir que si on commence à poser une question sur la nationalité, si on veut saisir la population d'origine étrangère, il faut savoir la nationalité du père, la nationalité de la mère, le lieu de naissance du père, le lieu de la naissance de la mère, etc. etc. Je veux dire, c'est un grand nombre de questions qui nous emmenaient un peu loin par rapport à cette enquête qui se veut seulement exploratoire, ne l'oublions pas.
Bien, donc on va essayer de ne pas prendre trop de retard. Donc le débat était à 16h, il y avait quelques témoignages de précaires qui étaient prévus. Je ne sais pas où ils sont. Bon, je vais juste te dire un petit mot quand même. Il y avait Amar et puis après, mademoiselle. Non, je voulais juste dire qu'on est quand même là aussi pour construire un combat. Hein. Donc on n'est pas seulement là pour... je crois que ce travail extraordinaire qu'ont fait nos collègues et toutes les réponses qu'il y a eu montrent qu'il y a une vraie volonté de se battre et d'améliorer la condition des collègues en situation de précarité.
Alors, juste pour laisser le temps aux deux ou trois autres qui doivent arriver, enfin qui sont dans la salle, on a essayé de choisir, il y a d'autres témoins possibles bien sûr, et d'ailleurs dans notre histoire personnelle, on a tous été précaires à un moment ou un autre, enfin peut-être pas tous, mais beaucoup, on a choisi quelques personnes pour représenter nos différentes catégories qu'on a présentées tout à l'heure, avec les côtés compliqués. Nos précaires ne sont pas là pour pleurer sur leur sort. Je parle de ces précaires-là. Je crois que c'est important à dire parce qu'ils n'avaient pas envie de venir si c'était vraiment pour dire tout va mal. Ils sont quand même contents de ce qu'ils font.